Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de cette avant-dernière émission de Chut, on écoute la télé, l'hebdo de cette saison dans une poignée de secondes, c'est le comédien Francis Huster qui nous rejoint en exclusivité pour nous parler évidemment de Zodiac et du dénouement qui approche avec le cinquième épisode ce soir sur TF1. Et puis nous aurons le plaisir de recevoir en fin d'émission Lydie Denier, c'est la comédienne française la plus connue aux États-Unis avec plus de 80 séries à son actif, dont Acapulco ou encore Alerte à Malibu, Melrose Place et la dernière série Tarzan, où elle a incarné Jane à la télé. Elle sera avec nous pour revenir sur ce parcours exceptionnel en compagnie de Patrick Loubatière qui lui a écrit un livre. Et puis nous aurons le plaisir aussi de vous proposer une spéciale Demain nous appartient, une spéciale Comico. Aujourd'hui avec Franck Monsigny, Julie Debazac et Maïel Elajaoui qui seront avec nous. Et puis on parlera également de l'été d'ici tout commence avec Stéphane Blancafort alias Marc Leroy qui sera notre invité. Et puis en exclu podcast, aujourd'hui on fera le bilan avec trois mariés de Marie au premier regard, c'est Laurent, Christophe et Perrine qui seront avec nous pour nous faire le bilan de leur émission. Alors vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, dans nos coups de cœur télé, c'est l'avant-dernier épisode jeudi déjà de Zodiac, le grand retour, la série que vous attendiez tous, Francis Huster et notre invité alias Keller. Bonjour Francis.
Bonjour, bonjour.
C'était presque inespéré de retrouver ce rôle, de retrouver ce personnage. Et je sais que tu as pris un plaisir indéfinissable à pouvoir retrouver Keller après 20 ans.
Mais ce qui était formidable, c'est que Bruno Garcia a réalisé le film comme on doit les réaliser maintenant. C'est-à-dire qu'il y a toutes les générations. Il y a des jeunes actrices, des jeunes acteurs qui sont magnifiques, qui sont bourrés de talent et qui vont vraiment cartonner. Et puis il y a les deux autres générations où tu as des contre-emplois, comme par exemple Marine Delterme, comme Arthur Juniau, comme Lanny Gantry. On ne s'attend pas du tout à ce qu'à l'intérieur de cette famille, il y ait des monstres, des gens qui sont à la fois responsables de crimes peut-être, et qui d'ailleurs vont payer pour certains de leur vie. Et puis il y a la troisième part du gâteau Zodiac, c'est le trio avec Erika Saint, qui est une avocate, comme on l'a pu le voir. Mais là, au début de cet épisode, peut-être on peut se poser la question, mais comment se fait-il que depuis le début, Zodiac envoie ses messages à Erika Saint? Et on peut même se poser la question, mais et si c'était du bidon, ces messages? Et si c'était elle-même qui se les envoie pour justement cacher le fait qu'elle est elle-même Zodiac? Donc là, vraiment, il faut que tout le monde soit très, très, très attentif dans l'épisode qui vient. C'est l'épisode d'ailleurs où il y a évidemment encore une victime, un crime d'eux d'ailleurs. C'est celui où on est complètement paumé. impossible de savoir qui est vraiment celui qu'on cherche depuis le début. D'abord, est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Et d'ailleurs, au sixième et dernier épisode, où enfin...
On va avoir le dénouement.
On va avoir le dénouement. Le Keller, il est complètement sidéré de découvrir qui c'est. Et la fin, évidemment, est très forte. Et je crois que ce qui a beaucoup plu aux gens dans les épisodes précédents, c'est exactement comme pour les bouquins d'Agatha Christie ou de Conan Doyle. C'est-à-dire que tu te fais toi-même ta propre idée, tu te mets dans la peau de chacun des personnages et tu te fais complètement avoir.
On devient parano, on soupçonne tout le monde, mais depuis le début, on est en train de se dire, mais où c'est qu'on veut nous emmener, où c'est que... Et moi, je me suis même posé la question à me dire, est-ce que le vrai Zodiac pourrait être de retour? Évidemment, on ne le met pas au casting parce que ça brûlerait tout, mais est-ce que Mathias Rousseau pourrait être de retour dans le dernier épisode? Il y a toutes les théories possibles, inimaginables, qu'on voit sur les réseaux sociaux fleurir.
Mais tu es très très judicieux, hein, dis donc. Oh là 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 là, mais je vais pas vendre le secret, mais tu brûles et tu vas voir ce qui va se passer et une fois que ce qui va se passer, tu vas être complètement stupéfait de ce que ça va entraîner. Mais c'est vrai que Franck Olivier, Malina Decheva, Franck est un auteur de polar absolument extraordinaire. Malina, elle a cette espèce d'instinct aussi féminin de brouiller les pistes un peu, de nous amener aussi sur des scènes où tu te dis, voilà, ça y est, c'est joué. Bah pas du tout, c'est pas joué du tout. Et attention, justement, ça serait bien que tous les millions de gens qui regardent se téléphonent entre eux à la fin du cinquième épisode et se disent, alors qui c'est? Et qu'ils se fassent un peu des paris. Je pense que 9 sur 10 se planteront.
Mais toi, quand t'as lu le scénario, déjà, qu'est-ce qui t'a fait dire oui en premier? Parce que j'imagine que pour reprendre un personnage emblématique et une série emblématique comme celle-ci, fallait qu'il y ait un scénario hyper béton, fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui te séduise. Parce que 20 ans après, il s'agissait pas de faire moins bien qu'il y a 20 ans.
Il y a deux choses qui m'ont séduite, en dehors du fait que Bruno Garcia serait le réalisateur.
Ah bah évidemment, notre Bruno qu'on adore, qu'on a eu pour le lancement.
Voilà, non, ce qui m'a beaucoup séduit, c'est le fait justement qu'il y avait beaucoup de rôles de jeunes et des contre-emplois qui sont vraiment des rôles principaux. Il n'y a pas de second rôle dans cette série. Tout le monde, tout d'un coup, est au devant de l'histoire. Et ça m'a beaucoup séduit parce que je me suis dit que ça serait un peu comme un labyrinthe où Keller... est complètement paumé, il trouve jamais la sortie, donc qui est vraiment Zodiac, mais en même temps ça me permettait moi de changer totalement ma façon de jouer. Pour ça je suis très heureux de la façon dont la presse a porté au nu ce Zodiac, c'est que effectivement on peut plus jouer, on peut plus mettre en scène, on peut plus même scénariser aujourd'hui les films comme on le faisait. Il faut comprendre la chose suivante, c'est-à-dire que la façon de jouer des acteurs, tu peux le remarquer, avant on te filmait et il y avait donc un monteur ou une monteuse et en fait dans le film il y avait que le moment où c'est toi qui parlais, où t'étais à l'image, et hop il parle c'est lui, et hop elle parle c'est elle, et hop il parle c'est lui, et puis tout d'un coup avec la nouvelle vague on a commencé avec la caméra à se balader un peu. Alors, tu le voyais un peu de dos, tu le voyais un peu de... Ça n'existait pas avant des acteurs de dos dans le cinéma. Et puis, ça n'existait pas aussi des acteurs qui, au contraire, au fur et à mesure, étaient filmés quand ils écoutaient. Quand ils écoutaient, c'est-à-dire que tu entends l'autre parler et t'as la réaction de l'acteur. Donc, c'est tout à fait un autre...
Avant, des fois, c'était l'autre acteur qui n'était pas justement dans le champ, en profitait des fois... pour jouer un peu moins ou pour voilà juste rendre l'appareil, mais et maintenant ça oblige justement les acteurs à que ça soit en chant ou contre chant à donner la même attention finalement et à donner la même chose.
Mais complètement, c'est-à-dire que regarde le tennis quand tu regardes le tennis il y a 20 ans, ils attendaient, alors McEnroe il attendait que Connor se tape la balle pour réagir et vice-versa avec Borg. Aujourd'hui, ils seraient massacrés sur un terrain de tennis ces joueurs-là. C'est plus du tout pareil. Aujourd'hui, les joueurs de tennis, ils anticipent une fois qu'ils ont eux-mêmes envoyé la balle, ils anticipent déjà ce que l'autre va faire. Et bien c'est pareil, nous les acteurs et toutes les actrices, on est obligés d'anticiper. Et parce qu'on sait que finalement au montage, c'est pas quand on va parler qu'on sera monté, c'est à 50% quand on reçoit l'émotion. Et alors, pourquoi c'est un pas en avant? C'est que le public, contrairement à ce qui se passait avant, Le public a complètement évolué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand tu avais des films, des westerns, des polars, tu te mettais en tant que spectateur ou spectatrice dans la peau d'un seul des héros du film. Non mais sérieusement, un seul des héros du film.
Alors que là, tu es plus au cœur de l'intrigue, le téléspectateur est plus inclus.
Complètement, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, il est dans la peau de celui qui est sur l'écran. Il change de peau à chaque fois. C'est plus un acteur qu'on suit. Non. C'est tous les acteurs. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, parce que ça permet à tout acteur, que ce soit acteur star ou actrice star, et acteur ou actrice qui a tout d'un coup un seul rôle, une seule scène dans le film, des fois c'est cette scène-là qui est la plus importante du film pour le spectateur, la spectatrice. Là, je trouve que c'est merveilleux, parce que nous, les acteurs, quand on est une trentaine, une quarantaine dans un film, dans une série comme ça...
Parce qu'il y a beaucoup de personnages dans Zodiac. Hein.
On se respecte tous. On se respecte tous. Et c'est ça qui est important. Avant, tout le monde sait très bien que ben il y avait certaines stars. Faut pas les déranger. Ils sont dans leur loge là, ils sont dans leur camion personnel et tout. Oh là là, attention, il vient sur le terrain. Ça va bien, vous allez bien. Alors voilà, vous faites ça et ça. C'est fini ça. C'est totalement fini.
Toi, t'as toujours aimé tourner, donner la chance à la nouvelle génération. T'as été le fer de lance de Ici Tout Commence, par exemple, qui aujourd'hui fait le carton qu'on sait. D'ailleurs, tu y as fait un retour un peu en tant que fantôme dans le rôle d'Auguste Armand. Et ça fait bizarre d'avoir une série maintenant depuis 6 ans où ton nom est évoqué à chaque épisode et que le nom d'Auguste Armand reste ancré complètement alors que finalement t'as tourné 3 mois sur la série. Mm-hmm. Ça, c'est un exemple effectivement de personnage emblématique finalement.
Ben, c'était très important, c'était un coup de poker, parce que je me souviens très bien que la plupart des gens du métier, quand ils ont appris que je faisais ça, ben, t'es complètement cinglé, mais qu'est-ce que tu vas faire, qui va regarder la télé à cette heure-là, mais t'es vraiment un dingue. Résultat, ça a été le triomphe, et ça continue à être le triomphe, et maintenant tous les acteurs veulent en faire partie.
Ça s'appelle la transmission, tout ça.
Oui, c'est ça, et je trouve que c'est magnifique, parce que ça donne la possibilité à des jeunes comédiens totalement inconnus, tout d'un coup, de devenir vraiment des stars. Et les gens les voient en plus pratiquer leur métier à leur façon. Ils s'imitent pas les uns les autres. Ils imposent leur personnalité. Et puis, attends, il faut parler au premier degré. À mon époque, il y a 40 ans, t'étais beau, t'étais belle, t'avais le rôle principal. T'étais un peu moins beau, un peu moins... Bon, on te donnait un second rôle. Ou alors t'étais un comique. Ah, t'as vu ta gueule, celui-là il est drôle. Alors celui-là, oh ben nous on va lui faire jouer un truc dramatique avec un mec qui a le cancer, mais ça va pas. Voilà, donc c'était complètement diversifié comme ça. Et tu pouvais pas sortir de ton emploi. On appelait ça un emploi. Tu jouais des héros, tu pouvais pas jouer des salauds tout d'un coup. Et tu jouais des salauds, tu pouvais pas jouer des héros. Alors là, on n'en parle plus. C'est ça qui est formidable, c'est qu'ils ont compris... Au fur et à mesure des milliers de films et des milliers de pièces qui ont eu lieu depuis que le théâtre, le cinéma, le concert, la danse, peu importe, ça se joue pas tout seul, ça se joue avec le public. Et c'est là où les one man show, les one woman show ont été si importants, parce que eux ont tout de suite compris que le public joue avec eux.
Comme le stand-up, effectivement, qui est devenu complètement à la mode, ou que là, ils interagissent avec le public quasiment en permanence maintenant.
Mais complètement, ils sont sur scène, ils sont avec eux, et c'est ça qui est merveilleux. Et nous, à l'écran, que ce soit au cinéma ou à la télé, on est vraiment obligés, moi je le crois, hein, de plus en plus, à n'interpréter que des rôles qui sont ce que vous êtes. Les gens n'acceptent plus le surjeu des acteurs qui font croire qu'on n'y croit pas.
Et puis les émotions, eh bien on est en train d'en vivre de folie chaque jeudi, c'est à 21h10 sur TF1, ça s'appelle Zodiac. Si vous n'avez pas vu les 4 précédents épisodes, eh bien vous pouvez aller sur TF1+, évidemment, et voir gratuitement. Et puis l'épisode de jeudi, il est déjà en avant-première sur TF1+, Premium. Si vous voulez le découvrir, c'est le moment ou jamais. Et on attend des nouveaux la semaine prochaine. Hein. Allez, on croise les doigts, on fait nos pronostics. Et je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
Quoi, ton pronostic, c'est quoi? Il est sur Netflix hein, aussi.
Ah bah oui maintenant, mais bah oui depuis maintenant quelques semaines, oui.
Absolument. Alors ton pronostic, allez mouille-toi.
Moi je sens que Mathias Rousseau va revenir à la fin.
Tu sens que Mathias Rousseau, c'est qui Mathias Rousseau? Celui que j'ai tué il y a 20 ans.
Et oui, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis 20 ans. Alors, est-ce qu'on pourrait voir un retour surprise de l'acteur, évidemment? Je sais pas, il y a plein de théories. En tout cas, moi, j'attends avec impatience. Merci beaucoup, mon cher Francis.
Mais merci beaucoup, merci beaucoup.
On te dit à bientôt.
À la finale. Quand on sera en finale, tu penses bien qu'on se verra tous les deux.
C'est la fille de la procureure. Elle devait se marier aujourd'hui.
Tu te souviens de Mathias Rousseau? Celui qu'on a surnommé le Zodiac.
Il est mort.
On n'a jamais retrouvé son corps.
Vous pensez vraiment que ce tueur serait de retour? Ça fait plus de 20 ans qu'il a disparu.
C'est pas la première fois que le malheur frappe notre famille.
C'est le symbole qu'il utilisait pour ses meurtres.
Ça devait être le plus beau jour de sa vie.
Marielle, c'était son rêve. Et moi aussi.
Ça c'est ta faute, pourquoi tu veux laisser partir ça?
Je sais ce que c'est que d'enterrer un enfant.
Je me fous de votre compassion.
J'ai failli devenir dingue en traquant le Zodiac.
Les enfants paieront pour les crimes de leurs parents.
Allez, dans quelques instants, spécial quotidienne, nous aurons le plaisir de recevoir Franck Monsigny, Julie de Bazac et Maïel El Hajjaoui, et puis Stéphane Blancafort qui sera avec nous. Alors à tout de suite pour Demain nous appartient, et ici tout commence.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Quand j'écris dans mon carnet, j'imagine les choses en grand. J'ai des idées plein la tête, dis-moi si j'aurai le temps. Rien n'a changé dans ma chambre, d'en bas je vois les posters. Je suis prêt quoi qu'on me demande, maman dit ça va le faire. Et si je passais la porte, qu'est-ce que je verrais dehors? Dernier regard en arrière, avant de jouer on sort. Bientôt je décolle en l'air, je te le promets. Maman, tu seras fière. Quand tu auras le temps, tu trouveras le plan pour naviguer dans ce grand château. Quand tu auras le temps, tu trouveras le plan. Rien n'est trop grand, bon, rien n'est trop grand. Y'a des gens qui se posent 10 000 questions sur le pourquoi du comment jusqu'à en perdre la raison. Le papier peint coloré se grisonne avec le temps. La façade est fissurée, plus rien n'a de sens. Dans mon château y'a des monstres qui viennent me hanter la nuit. Seul dans mon coin je renonce à les laisser m'envahir. Comment fermer cette porte? Maman, je cherche la sortie. Tu trouveras le plan pour naviguer dans ce grand château. Quand tu auras le temps, tu trouveras le plan. Rien n'est trop grand, non, rien n'est trop grand.
C'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez les amis, on va continuer à parler de Marie au premier regard. Et oui, si l'émission a touché à sa fin il y a maintenant un mois, que sont-ils devenus? Trois candidats de l'émission sont nos invités aujourd'hui. On a retrouvé Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour Alain, tu vas bien?
Eh ben ça va très très bien. Christophe est avec nous aussi. Bonjour Christophe.
Salut Alain, salut tout le monde.
Et puis Perrine qui est avec nous également. Bonjour Perrine.
Coucou Alain.
Merci d'être là tous les trois. Alors c'est vrai qu'on vous a eu pour une grande émission spéciale le 8 juin dernier. Pour certains d'entre vous, ça y est, on a eu le dénouement. Alors maintenant, 10 mois sont passés. La bonne nouvelle, Laurent avec Jenna, ça roule toujours. Comme sur des roulettes, c'est le cas de le dire.
Mais oui, carrément, toujours amoureux, toujours marié, ça se passe super bien et on continue voilà, dans cette avancée-là avec plein de projets.
Alors, c'est vrai que vous avez plein d'atomes crochus, notamment celui de l'humour et de la scène, tous les deux. J'espère en tout cas qu'on aura la chance de vous voir ensemble sur scène. Je suis sûr qu'il va y avoir des petites choses qui se préparent dans ce domaine-là.
Ah mais c'est même déjà prêt, puisque le 18 juin, on a joué ensemble au Marseille Comedy Club, on a été comblés, c'était une date complètement exceptionnelle. Vu le succès, on reconduit la date pour le 18 juillet, et donc voilà, on continue, voilà, s'amuser voilà, à la vie, à la scène. Voilà, c'est ça, moi et Jenna.
C'est ça qui est absolument dingue. On peut dire que l'émission, en tout cas, t'a apporté énormément de choses et t'a vraiment permis, toi, de trouver l'amour alors que tu l'avais sous tes yeux.
Exactement.
C'est ça la particularité quand même, toi.
Ben c'est ça, c'est le destin. Des fois, il te montre, voilà, il te dit que les choses, des fois, elles sont prêtes, ouvre un peu mieux les yeux. Mais pour le coup, il m'a aidé. Donc voilà, merci à Mario au premier regard et merci à toi aussi, voilà.
On va parler de ce que tu veux en faire de tout ça dans quelques instants. On va s'intéresser à Perrine. Alors Perrine a eu un peu moins de chance, hein. Elle, ça s'est terminé pas très très bien, puisque évidemment, comme vous l'avez pu le suivre, Perrine et Alexandre ne sont plus ensemble. Aujourd'hui, Perrine, ça a été effectivement la diffusion a été un moment douloureux pour toi malgré tout, parce que c'est vrai que on essuie les critiques, on essuie le montage de l'émission, qui est pas toujours facile à vivre parce que les internautes s'approprient votre histoire. C'est ça aussi des fois un petit peu le souci. Mais c'est une expérience quand même hors du commun que tu as vécue.
Oui, tout à fait. C'est l'expérience la plus hors du commun de toute ma vie que j'ai vécue. Pourtant, j'en avais déjà vécu des trucs hallucinants. Très compliqués à vivre pour moi. Une expérience douloureuse aussi. Après, j'ai eu heureusement quand même des très beaux moments. Le jour du mariage, par exemple, qui reste un beau souvenir malgré tout.
Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le soutien sans faille de tes deux filles.
Oui.
Je trouve qu'elles ont été tout le temps à tes côtés. Ça, c'est important, d'avoir l'adhésion des proches. Et encore plus, quand il y a cette alchimie entre vous trois, qui était très belle à voir, en tout cas l'écran.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je les remercie encore une fois du plus profond de mon cœur. Et elles ont été aussi surtout très présentes lors de la diffusion. Elles m'ont vu perdre pied par moments. Et je suis tellement fier d'avoir des pépettes aussi formidables et aussi fortes et aussi compréhensives et qui me suivent dans mes folies aussi.
Parce que c'est marié premier regard, c'est une folie. Mais oui, on peut le dire, Christophe, tu l'as vécu aussi, cette folie. Alors, pour toi, c'est pareil. Alors, on peut même pas dire que ça a démarré avec Margot. Non, mais c'est ça, le truc, c'est que, alors toi, ça a été, on peut dire, un mariage platonique.
C'est ça, c'était un faux départ. ça a été un peu compliqué à vivre, mais ça va quand même. Je garde de très bons souvenirs de l'expérience. J'ai rencontré des personnes formidables et on va retenir que le positif.
On dit que Mario, au premier regard, c'est une famille. Là, j'ai l'occasion de vous avoir tous les trois. J'ai pu voir effectivement l'entente qu'il pouvait y avoir entre vous. Est-ce que vous pensez quelque part que rien de tel que des personnes qui ont vécu la même aventure que vous est à même de pouvoir comprendre ce que vous avez vécu?
Forcément, on est forcément les mieux placés pour se soutenir, pour se donner des conseils. On a vécu la même chose, pas forcément avec les mêmes finalités, mais on a vécu exactement la même expérience avec les mêmes personnes, enfin les expertes, l'équipe de production, tout ça. Donc forcément, oui, on est les plus à même à se donner des conseils.
Bon, est-ce que t'es si maladroit que ça? Ou franchement, ils ont fait une compilation de tout ce que tu as pu faire tomber, trébucher en un épisode. Raconte-nous.
Je peux vous jurer qu'il n'y a pas tout qui a été montré à l'écran. Ça a été bien.
Il y en a d'autres.
Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres et elles n'ont pas été, soit pas filmées. Je me rappelle au dernier restaurant, quand on fait le dernier repas avec Margot, j'ai renversé un verre d'eau à table. Et à ce moment-là, le cadreur était aux toilettes. Enfin, ça filmait pas, quoi. Donc, je m'en suis bien sorti.
Tu faisais tout pourtant pour la faire rire. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas. Perrine, c'est vrai, rien de tel que d'autres personnes qui ont vécu la même aventure peuvent te comprendre. Est-ce que ça t'a fait du bien, toi, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir discuter pendant cette diffusion et essayer justement de trouver une oreille des fois attentive?
Alors, il faut savoir qu'on n'a pas forcément le droit de rentrer en contact pendant la diffusion tous ensemble. Il y en a certains qui enfreignent les règles ou pas. Moi, en tout cas, Christophe a été mon confident, mon psychiatre bénévole, hein, puisqu'il n'a pas été rémunéré pour cette fonction. Et je l'ai vu en vrai pour la première fois, là, grâce à toi, Alain.
C'est génial, ça. Et Laurent, toi, pareil? Mais moi, alors, je pense... toi, comme t'as trouvé l'amour, c'est exactement. Vrai que vous êtes déjà deux à pouvoir discuter de cette aventure. Mais je pense que ce qui a été le plus dur quand même, c'est de devoir vous cacher pendant plus de 6 mois. Et en plus, pendant cette diffusion où j'imagine qu'on essayait de vous chasser pour voir si vous étiez toujours ensemble.
Bah forcément, comme je le dis à chaque fois, mais c'était pas difficile, c'était très marrant parce que j'avais l'impression qu'on était deux adolescents qui devaient se cacher. Donc il y avait un côté très très marrant. En plus de ça, de se cacher, il fallait pas qu'on se montre sur scène ensemble, chose qu'on faisait, qu'on aurait pu faire finalement, mais que c'était interdit pour pas donner d'indices. Mais en vrai, c'était très marrant. Moi, j'avais l'impression que c'était qu'on était deux adolescents et que c'était très drôle. Au final, c'est que 3 mois et ce couple, il est tellement fou. On s'est marié au premier regard. On a fait le voyage de noces.
Deuxième regard même, je dirais.
Ouais, c'est ça exactement. Et en fait, depuis le début, c'est fou. Donc c'était encore une épreuve supplémentaire de folie dans ce couple et qui nous ressemble en fait. Moi j'ai bien aimé cette expérience du début à la fin. J'ai eu cette chance là contrairement à d'autres participants comme Perrine et Christophe qui sont là où nous c'était une finalité positive et les montages étaient en notre faveur, enfin, surtout pour moi, même pour Géna c'était compliqué au début. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le soutien, ben, forcément quand tu as vécu cette expérience on est les mieux placés. Et encore, on n'a pas tous finalement vécu les montages de la même manière selon comme c'est montré. Je trouve que Marié au premier regard c'est une très belle expérience. Quand tout se passe bien, ça peut être tout est merveilleux, mais à l'inverse, quand c'est sur une finalité où c'est pas positif, ça peut être très compliqué aussi pour les participants où les gens n'ont pas forcément de recul avec la télé.
Alors c'est vrai qu'il y a 3 couples, hein, cette année Laurie et Antonin, Alex et Lucille aussi, qui nous ont beaucoup émus tout au long de cette saison. Et malgré tout, Laurent, vous ouais. avez pensé des fois à peut-être piéger justement des gens, parce que vous auriez pu des fois aussi monter sur scène, faire ceux à la limite qui se parlaient pas et tout, et les gens ont pu se dire ah ben en fait ils sont au froid, ils sont plus ensemble. Vous auriez pu jouer aussi avec ça, parce que je sais que t'as envie de faire de la comédie en plus, t'aurais pu très bien en jouer.
Ah mais si j'avais pas le contrat de confidentialité, j'aurais fait des folies, ça c'est sûr. Mais où je m'amusais, c'était surtout sur les messages, des commentaires. Je faussais les pistes à chaque fois, je faisais croire qu'on n'était pas ensemble, des fois je faisais croire qu'on était ensemble, je sous-entendais des choses. Je me suis beaucoup amusé avec les commentaires, notamment sur TikTok, tout ça à faire et à les embrouiller. Je trouvais ça très drôle.
C'est ça qui est génial. Alors Perrine, c'est vrai que toi aussi, bah, quand on est responsable d'entreprise, bah, ça peut dépeindre aussi sur le travail. C'est ça qui est aussi dommage. Ça a été une aventure quand même un peu douloureuse, cette diffusion, parce que c'est vrai que tout le monde te tombe dessus. Comment on se met des garde-fous? On essaye de se faire suivre, de pouvoir parler avec les uns les autres?
Alors j'ai tout de suite trouvé un professionnel pour me suivre de près. Déjà, j'avais déjà commencé à faire mes recherches avant la diff. Pourtant, je ne savais pas ce qui m'attendait.
Oui, donc tu te préparais quand même, ça c'est bien, c'est important.
Parce que ça m'effrayait, la diffusion m'effrayait. Et en ce qui concerne mon métier, heureusement j'ai une clientèle très bienveillante et intelligente qui a été... D'un grand soutien, mais aussi d'une très grande discrétion, d'une grande pudeur. Certaines clientes avaient la délicatesse de ne même pas m'en parler. J'avais des fois juste un câlin, j'avais des messages privés aussi de mes clientes qui me soutenaient. Après j'ai eu aussi de la violence, hein, même dans la vraie vie. Des insultes. J'ai eu jusqu'à une personne qui m'a envoyé un mauvais avis sur Google sur ma page du salon, alors en parlant de l'émission, en me traitant de vermine, enfin bref, ça a été loin quand même, ouais. Quand on n'a jamais vécu ça, c'est quand même très violent. Mais maintenant, voilà, je suis vivante, tout va bien, j'aime toujours autant la vie, et c'est hors de question que ça m'abîme à long terme.
Il faut pas, effectivement, il faut surtout pas, parce qu'il y a plein de belles choses, j'en suis sûr, qui vont ressortir de cette histoire, et effectivement de l'émission. Tous ceux, effectivement, qui ne rencontrent pas forcément l'amour, rencontrent plein de choses, et ça c'est important, rencontrent plein de gens, et puis ça peut leur apporter des choses aussi des fois hyper positives, comme toi, mon cher Christophe, parce que franchement, je pense que c'est une expérience malgré tout que tu garderas longtemps en tête.
Oui, franchement, comme disait Laurent tout à l'heure, moi j'ai eu la chance aussi de pas avoir de soucis particuliers avec le montage. Enfin, tout s'est bien passé pour moi. La diffusion, je l'ai très très bien vécue et j'ai kiffé voir toutes ces petites aventures à l'écran, même si voilà, même si j'ai pas vécu l'amour, j'ai pas eu les papillons dans le ventre, j'ai pas eu d'histoire d'amour. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu la déception de mon côté. Mais
t'as des nouvelles de Margot quand même?
C'est vrai que ces derniers jours, non, pas trop. Mais on n'est pas en froid, on n'est pas en dispute. Il y a pas de soucis particuliers entre nous. C'est juste que
c'est terminé comme ça a commencé, quoi.
Voilà, c'est ça. Ben, on se parlait un petit peu pendant la diffusion parce qu'on faisait un petit peu des débriefs de des épisodes. Hein. Chaque mardi, on s'appelait un petit peu, on s'envoyait des messages. Et là que la diffusion est finie depuis un petit moment, j'ai plus trop de nouvelles, non.
Il y en a qui vont se marier d'ici quelques mois, 2-3 mois, du côté de Gibraltar. Il y en a qui sont en train de tourner les portraits, il y en a qui sont en train de s'inscrire en ce moment pour la saison 11. Quels conseils vous avez envie de leur donner pour terminer, Christophe?
De vivre les choses à 1000%, vraiment, de bien réfléchir à tout ce que ça implique derrière cette expérience, et surtout voilà, de les vivre à fond, de devenir à 100% impliqué et concernés par, par l'expérience.
Perrine.
Si je devais vraiment donner un conseil aux futurs mariés, c'est de faire attention à eux, de ne pas s'oublier soi-même, la personne la plus importante, quoi qu'il arrive, c'est eux, de se respecter, de s'écouter de A à Z. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons savoir vraiment ce qui est bon pour nous ou pas.
Rester soi-même, c'est vraiment ce qui va ressortir. Pour toi, Laurent?
Moi, je dirais pour les participants, pour les hommes, d'être le plus bienveillant avec mesdames. Je dirais que c'est ça. Moi, c'était ma devise. Je me suis dit, voilà, respecter avec tout ce qui se passe, on sait aujourd'hui. Donc, fais un effort, sois bienveillant. Et les réseaux, on sait ce que ça peut être. Donc voilà, de la sincérité, de la bienveillance, je pense que c'est l'atout et, pour réussir cette émission et cette expérience.
Si vous n'avez pas regardé cette saison, n'hésitez pas, vous pouvez la rattraper encore sur M6+, évidemment, tout au long de votre été. Merci infiniment à tous les trois d'être venus effectivement confesser cet après, Marié au premier regard. C'est que le tournage, c'est déjà une grande source d'émotion, mais la diffusion, on est encore une autre. Et puis l'après, c'est aussi un nouveau chemin qui démarre, qu'on vous souhaite le plus beau possible. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup, merci Alain.
Merci mille fois Alain.
Merci beaucoup Alain et merci pour cette invitation et ce week-end incroyable.
Marié au premier regard, en fait, c'est 10 ans.
J'ai 33 ans, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. C'est dur.
Moi, je veux être avec la bonne personne.
On a tous quelqu'un de fait pour soi.
Regarde-moi ça, c'est incroyable.
On l'a mesuré, la possibilité de coup de foudre au premier regard.
Waouh.
Là, il tombe amoureux rien qu'en la regardant.
Et deux âmes sœurs en fait qui se sont trouvées.
J'espère que ça s'arrêtera jamais.
Allez, il sera en spectacle cet été du côté de Sète. On a la chance de l'avoir avec nous. Il vous remplit de bonheur tous les soirs du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Dans Demain nous appartient, c'est Maïel Elhajaoui qui nous rejoint. Bonjour Maïel.
Bonjour à tous et ça me fait plaisir de vous retrouver.
Et ben moi aussi, ça me fait très très plaisir de te retrouver Maïel. Il est vrai que Demain nous appartient, c'est une série qui cartonne, dans laquelle tu es maintenant depuis combien de temps? Parce que si la série... cette année à 9 ans, toi tu es 8 ans depuis combien de temps? Ça fait 8 ans toi?
8 ans et demi, je suis arrivé 6 mois après donc on va dire 8 ans et demi.
Quelle aventure. Non, c'est vrai que Georges nous offre souvent des scènes d'émotion, des scènes de rire aussi. Ouais. Mais t'es plus dans l'émotion avec Georges ces derniers temps quand même.
Ouais, bah de toute façon il a pris du galon, il est devenu directeur de la police technique et scientifique. Mais j'adore quand même mes séquences avec Mona où il y a quand même beaucoup plus de légèreté, de conneries à dire.
C'est vrai qu'avec Mona, franchement, mais elle nous fait tellement rire, Catherine. Ouais. Je sais même pas comment tu fais pour garder ton sérieux.
C'est compliqué, mais tellement on se connaît bien maintenant qu'on a des petites astuces pour essayer d'avancer sans faire perdre trop de temps à l'équipe. Mais c'est un bonheur de tourner avec cette femme, c'est incroyable.
Tu t'attendais à avoir une maman comme ça ou c'est encore plus beau que les rêves que tu pouvais faire quand on t'a dit que t'allais avoir la maman qu'elle est arrivée?
Non, c'est toujours hyper agréable d'avoir une partenaire, une maman, une amie, parce qu'aujourd'hui elle est vraiment devenue quelqu'un qui fait partie de ma famille, quoi. Et bien surtout qui a un grand cœur, qui est gentil et qui fait rêver encore plein de gens de par son parcours et donc moi je suis hyper heureux de jouer avec elle, ouais, d'être son fils.
Alors c'est vrai que les amours dernièrement de Georges, c'est pas évident, hein.
Non, mais il va y avoir du rebondissement. Je vous promets qu'il y a des choses très sympathiques qui vont arriver.
Ah, c'est vrai qu'après la rupture avec Victoire, je suis sûr que tout le monde te demande sans arrêt. Mmh. Mais quand c'est un retour du couple Georges-Victoire?
C'est ce que tout le monde nous demande et on a des courriers, TF1, mon agent, la prod.
Ah, carrément?
Ouais, on a des courriers de gens qui demandent et qui font des espèces de pétitions sur les réseaux ou quoi.
Ça a été un des couples les plus aimés, emblématiques de la série, mine de rien.
Ouais, et puis avec Solène, c'est vrai qu'on s'entend hyper bien, que ce soit devant ou derrière les caméras. Donc c'est toujours un bonheur d'avoir une partenaire de jeu comme elle. C'est un bonheur. Donc on a envie de jouer des choses ensemble.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que tu fais aussi du one man et que tu montes sur scène. C'est quoi justement Maïel sur scène?
Eh ben, moi je raconte un peu plus qui je suis en vrai. Parce que c'est vrai que les gens ils ont une image de ce qu'on peut être à travers l'écran. Et donc quand on joue dans une série qui est vue quotidiennement, les gens ils pensent que voilà, forcément on est Georges, on est flic, on est geek, etc. Et donc je casse un peu cette image en expliquant un peu juste qui je suis dans la vraie vie, que je suis un petit gars de Picardie, originaire de d'Amiens et qui a aussi des origines marocaines. Et donc tout ce folklore, toute cette fantaisie, j'ai 10 frères et sœurs, donc tout ça n'aide pas dans la blague et dans la connerie.
Et justement, c'est fait pour nous faire rire, bien évidemment aussi. Alors moi, j'ai remarqué quand même malgré tout que dans le public, Il y a quelques années, c'était Georges. Aujourd'hui, c'est plutôt Maïel. Mm. Ça, c'est plutôt bien. C'est un bon signe.
Ouais, bien sûr, parce qu'au début, quand on connaît pas trop les gens, on les appelle par le prénom de leur personnage. Et là, c'est vrai que les gens savent un peu plus qui je suis, d'où je viens, etc. Donc c'est un bonheur. Ça veut dire que les choses évoluent positivement.
Mais ben oui, ça c'est sûr. Dans la série, tu t'y vois encore pendant longtemps ou pas?
Bah, pour l'instant, je suis heureux. Et tant que ça marche, je suis content. Et tant que je peux aussi faire d'autres choses, oui, je vois pas pourquoi j'arrêterai. Après.
Mais t'as des beaux projets pour la rentrée, dis-moi.
Ouais. Il y a une nouvelle série sur TF1 en prime avec Alice Paul et Natasha Lindinger. 6x52 minutes. Il y a Frédéric Bourali aussi. C'est une série qui s'appelle Docteur Célan et Cindy. Et ça traite un peu des déserts médicaux et c'est tourné un peu en mode comédie sociale. C'est produit par Itinéraire Productions, c'est ceux qui produisaient HPI. C'est les mêmes auteurs d'HPI, donc on a vraiment quelque chose de très drôle et de social, donc c'est cool.
On a hâte de découvrir en tout cas cette nouvelle série. Donc on le disait cet été, on te retrouve donc sur la scène A7.
Exactement.
Tu nous redonnes des dates juste avant, terminé.
Je suis sur 7 au théâtre qui s'appelle L'Audace, du 13 juillet au 14 août. Du mardi, mercredi, jeudi à 21h.
Et si vous êtes de passage évidemment par 7, n'hésitez pas à aller applaudir Maïel sur scène. On te retrouve évidemment dans Demain nous appartient, toujours du lundi au vendredi. Et puis évidemment la rentrée dans Docteur Célan, on ne sait pas quand encore. Ça sera la surprise. Merci Maïel.
Merci à vous et à très bientôt.
J'ai rencontré une meuf sur un chantier hier.
Et elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Pearl. Comme Pearl, mais Earl. Pearl.
Je comprends pas pourquoi ils ont inventé un mytho pareil.
T'as pas la moindre idée.
Donc t'es en train de sous-entendre que Bruno me kiffe, là?
T'as une autre théorie?
J'ai vu ce type dans mon salon.
Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a foncé dessus, il m'a menacé avec un couteau.
Vous avez eu des problèmes avec quelqu'un récemment?
Ça va pas se passer comme ça, tu m'entends? Ça se passera pas comme ça!
Allez, aujourd'hui, dans Chut, on écoute la télé, on va parler de Demain nous appartient, évidemment, et c'est une interview un peu comico qu'on va avoir. Et oui, ils sont là tous les deux, Franck Monsigny, qui nous rejoint. Bonjour Franck.
Garde-vous!
Fixe. Merci d'être là. Et puis, il n'est pas venu tout seul, Franck. Il nous a fait un beau cadeau. Il est venu avec Julie de Bazac qui est là aujourd'hui. Bonjour Julie.
Bonjour, c'est un honneur pour moi d'être là avec mon patron.
c'est ça. Ah, ça rigole pas tous les jours avec Martin Constant quand même, hein.
Ah non. Garde à vous, comme il disait. Et je suis là et je suis très heureuse d'être avec lui à ses côtés. Et de faire partie de sa troupe.
On sent qu'il y a une alchimie au sein du commissariat. Mine de rien, vous connaissez maintenant par cœur tous ensemble.
Ah oui. Ah bah, ce sont des gens avec qui on fait plus que travailler. On est tous loin de chez nous. Donc on sait ce qui se passe dans la vie de l'autre. On devient des amis, des proches. On voit les enfants grandir. C'est plus que des relations de travail.
Alors, cet été, il va y avoir plein de choses. Alors, il y a une intrigue délocalisée d'ailleurs, tournée sur Agde. Il y a plein de choses qui se passent évidemment. C'est en permanence qu'il y a des rebondissements à 7. Hein.
Bah c'est pour ça que cette série est un plaisir et d'incarner nos personnages sur cette longueur, c'est un vrai bonheur. Oui, j'ai eu la chance de faire partie de l'intrigue qui va arriver cet été, qui a été tournée 2 semaines à Agde. Donc j'ai découvert les lieux de tournage d'Agde. Ça a été un vrai plaisir d'être ailleurs en fait. On était même à l'hôtel pendant un temps et donc on se retrouvait différemment.
Parce que le rythme de tournage, il faut quand même le dire, c'est quand même hyper intense. Vous êtes souvent en studio et tout. Alors c'est vrai que des intrigues comme ça qui vous font sortir, ça fait du bien, ça oxygène aussi.
Oui, ça fait plaisir. C'est la joie de notre métier d'être amené dans les décors qui sont généralement les lieux les plus beaux de la région, souvent. Et en plus de se retrouver, la distribution était un peu différente. On retrouvait tout d'un coup le Coupe des Moreno, alors que la Coupe des Deniers les croise pratiquement jamais. Donc ça a été très très agréable de changer d'air et puis de partir sur de nouvelles aventures pour les spectateurs. Et c'est chouette.
Et puis elle a emmené sa grande fille en plus dans cette histoire. Et alors pour toi Franck, est-ce que l'été va être studieux? Est-ce que ça reste au commissariat? Comment ça va se passer?
Ah bah de toute façon on va aller de rebondissement en rebondissement avec la promesse de beaucoup beaucoup d'émotions à un moment de l'été, voilà, sur une arche particulière. Voilà, je pense que soyez bien tous au rendez-vous. Voilà, il va se passer quelque chose de fort.
De palpitant, oui. Ouais. On est à nos gilets pare-balles.
Vous avez hâte, justement, des fois, de découvrir les arches qui vont arriver, ce que les auteurs vous ont réservé. Vous dites quoi à chaque fois? Parce qu'on est à presque 10 ans, dans un an, on fait travailler 10 ans, demain nous appartient.
Ah bah, tous les mois, il se passe quelque chose, donc on n'est pas forcément mis au courant sur le fait. Bien sûr, on est convoqué pour des arches, et à ces réunions, on nous évoque les grandes lignes de ce qui va se passer, pour mettre nos personnages dans la compréhension des intrigues, voilà, pour qu'on puisse les aborder au mieux après quand on travaille les textes. Donc chaque mois, c'est vraiment la surprise de oui, sur qui ça va tomber, qu'est-ce qui va se passer, et c'est toujours très excitant.
Julie, pareil.
Ah bah, j'aime les histoires et j'aime les jouer, donc ouais, on est servi, on a de la chance.
Alors c'est vrai que le couple Donnier, il en a connu hein, des rebondissements, ça on peut le dire, avec William et puis le retour de Sophia dernièrement aussi sous les traits de Noémie Pontreau, et c'est vrai que la famille s'est un peu reconstruite, mine de rien, dernièrement.
Et oui, on se retrouve tous en famille et avec de nouveaux rapports, et c'est chouette, ça fait du bien.
Dans et le gendre, n'est-ce pas, oui. Martin Constant,
oui,
le fiston de Martin Constant.
Mon fils qui est arrivé déjà propre à 30 ans.
Mais qui est tellement exceptionnel, Nordine, quand ce qu'on l'aime.
Ah oui, c'est un amour. Moi, quand on m'a annoncé que j'allais avoir un fils de fiction, je vous jure, j'ai pleuré. Ça m'a fait bizarre. J'ai fait, je sais pas, une transposition. J'avais un fils, quoi. C'est pas rien, parce qu'on savait qu'on faisait rentrer quelqu'un sur la durée. Donc c'est quelqu'un avec qui, de toute façon, quand on est artiste, on a un affect. Et j'espérais que ça se passe au mieux, parce que je savais que j'allais m'y attacher. Donc ce que j'espérais, c'est qu'il s'attache aussi à moi, quoi.
Alors le couple mené avec Raphaël, c'est vrai, a connu des hauts débats. Je t'aime moi non plus dès le départ, ça a été un peu conflictuel. Bah oui, elle est avocate, lui il arrête les méchants. C'est toujours un petit peu compliqué, mais on a l'impression quand même que le couple s'est bien stabilisé, a trouvé ses marques.
Ah oui.
Mais pour combien de temps, on sait jamais dans une série quotidienne, par contre.
Non, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça aussi qu'on a démarré dans le dur. C'est parce qu'on savait ce qu'on voulait, et c'est ce qui s'est produit, ce fameux mariage, et puis cette unité, et puis ce déménagement commun, parce qu'on était chacun chez soi, et ça a permis de créer un décor, voilà, un lieu unique pour que le couple s'épanouisse, et on se marre, et on se marre depuis le début. Donc c'est très chouette.
Moi, ce qui me frappe vraiment entre vous dans le métier que vous représentez, en tout cas à la télé, c'est la solidarité. Parce que, comme tu dis, Franck, on doit toujours soutenir, évidemment, ses oreilles. Et à la fois, Martin Constant, il enquête toujours avec une droiture exemplaire, même quand il s'agit, par exemple, du capitaine Saïd et qu'il est soupçonné du meurtre d'Arthur, par exemple, dernièrement.
Oui, moi, j'obéis aux directives des auteurs. Moi, si on m'avait laissé composer Martin, il aurait peut-être été un petit peu différent, il aurait été peut-être un peu plus faillible, un peu plus hors la loi parfois, peut-être un peu plus
petit filou, peut-être un peu plus. Comme un peu Aurore des fois.
Oh oui, c'est un kiff de sortir des lignes à droite. Ouais. Non, j'ai de la chance d'être extrêmement bien servi.
Bah oui, solidarité, c'est le mot hein, ouais. qui convient à vous tous. Et on le sent aussi bien dans la vie qu'à l'écran, pour le coup, quand on vous voit tous ensemble avec cette équipe.
Merci, oui, c'est vrai, c'est important. Et puis je pense que les choses se sentent à l'écran aussi, humainement.
Ça, de toute façon, le secret, il faut se dire que c'est comme une distribution théâtrale. Je pense, Julie, t'as souvent remarqué, quand on fait l'effort d'être ensemble, de s'écouter, de se soutenir, d'être dans la bienveillance professionnelle, ça se ressent au plateau. Des gens qui ne pratiquent pas ça ne pourront pas faire croire à une amitié ou un amour. En général, moi, c'est ce que j'ai constaté. Et là, au vu du défi que représentait DNA au démarrage, on s'est dit, mais si on n'est pas au coude à coude, ça va rester une saga de l'été, quoi. C'était sûr.
Alors, ce qui est fort quand même aujourd'hui, c'est que non seulement c'est pas resté qu'une saga d'été, mais elle va fêter ses 10 ans l'année prochaine. Alors toi, t'es arrivé dans la série, on a carrément eu droit à une fausse mort directe d'entrée de Martin dès le départ. Toi, Julie, maintenant t'es arrivée, je crois, ça va faire 6-7 ans. La famille Donnier est vraiment arrivée dans la série pas longtemps après le début pour le coup. Est-ce que vous en rendez compte ça, que dans un an, vous aurez tourné 2600 épisodes et qu'il y aura déjà 10 ans, que vous accompagnerez les téléspectateurs fidèles chaque soir?
Ouais, je le sens bien. Ouais.
Dans les jambes, dans les bras ou ça.
J'ai grisé. Non, mais des fois je regarde les avant-après, mes photos de démarrage, les coupes, les styles, la barbe. J'avais beau avoir un âge, j'étais un enfant. C'est marrant, je revois, j'ai l'impression que j'étais un enfant au démarrage de DNA, quoi.
Quand on est un comédien, est-ce qu'on reste pas un éternel enfant?
Oui. Si, parce que ce métier porte le vrai nom de jouer, donc non, c'est une chance. Moi, j'ai pas. En même temps, j'ai senti les 10 ans, en même temps, j'ai pas senti les 10 ans. Je sais pas quoi dire. C'est confus, ça dépend. Ça dépend de la fatigue du jour.
Et il y a des familles, des fois, ça marche. y a des fois elle conquit le cœur des téléspectateurs, des fois non. Mais le cas de la famille Donnier vraiment fait école parce qu'elle a été tout de suite adoptée par le public. Et aujourd'hui, on est très très attachés, hein, et évidemment à William, à Aurore, à leurs deux filles, à Manon et Sophia. Et c'est vrai que cette famille a su vraiment conquérir le cœur des téléspectateurs quasi immédiatement.
Oh ben, ça me touche. C'est vrai qu'on a... On a aussi cette chance-là, et puis on continue, on se bat tous les jours, parce que le rythme de la quotidienne est très particulier, il est très dense, donc on a beaucoup de scènes par jour, c'est un rythme dingue, qui est assez excitant aussi, l'adrénaline est là en permanence, elle est là le soir aussi quand on apprend nos textes du lendemain, donc c'est un peu, on est dans une roue.
Il faut savoir que là on est sur le décor de Jennifer Leray qui a joué sa première de Panique au ministère, et qu'avant que la pièce démarre, Julie répétait ses textes. Dans les gradins.
Mais oui, on l'a vu faire.
Demain je tourne. Il y a action de caméra et hop, sur moi.
Elle est studieuse en plus. Bon, on va parler musique, toi. Mancini. Moi, j'adore. Parce que j'avance avec Mancini.
Oui.
T'as vu le jeu de mots?
Tant que tu avances avec moi. Merci beaucoup. C'est un plaisir qui est renouvelé. J'avais dit que c'était pas un feu de paille. Et je pratique la musique comme un sport que j'essaie d'amener le plus loin possible. Aussi longtemps que durera ma liberté et mon plaisir, j'arriverai à transmettre des émotions, parce que c'est une tribune qui se fait rare quand on est au théâtre, au cinéma ou à la télé, à moins d'être, son propre auteur. C'est quand même pas les enjeux qu'on défend tous les jours. Donc, monter sur scène et pouvoir dire des choses aux gens, y s'ouvrir, nous faire connaître différemment et pouvoir exprimer des choses qui nous sont importantes, c'est un privilège. Et ça, au-delà de pratiquer de la musique, avoir vécu la scène des showcases musicaux comme je les ai fait dernièrement en Belgique, c'était réellement, réellement un privilège. Et je voyais dans les yeux des gens que ça s'allumait, je les voyais briller et j'entendais leurs mots de remerciement qui n'étaient pas ordinaires. Et rien que pour ça, je vais essayer d'aller le plus loin possible. C'est pas facile, hein, mais...
Je crois que tu prépares l'album.
J'ai rentré beaucoup de nouveaux titres que j'aime beaucoup, qui ont une direction artistique un peu plus proche de mon ADN. Je prends des risques parce qu'il n'y a pas d'attente autour de moi, donc je vais essayer d'aller au plus proche de ce que je suis dans la musique. Et surtout, il y a un très beau concert qui se profile le 7 août à Hondres, près de Cabreton, qui est au profit des enfants mauriciens défavorisés. Et c'est une très belle association qui met ça en lumière, et j'espère que les gens seront nombreux à se déplacer. À savoir que c'est mon premier grand concert en France, donc profitez-en.
Auditeurs du bassin Arcachon, du Pays Basque, n'hésitez pas, c'est pas loin pour vous. Vous pourrez aller découvrir Mancini sur scène, alias Franck Monsigny, qui viendra jouer. Il y aura des dates aussi à partir de la rentrée. Est-ce qu'on aura la chance de te voir un peu partout en France?
Je communiquerai dessus, oui, mais j'espère.
Sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Franck Monsigny, Mancini, M-A-N-C-I-N-I.
Voilà, et ça va même être le titre d'un morceau, M-A-N-C-I-N-I.
Tu vas nous en faire découvrir un, de toute façon tu vas en choisir un dans quelques instants. Tes projets pour toi, j'allais dire Aurore moi. Julie, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu tourner?
Appelle-moi Aurore. j'ai un projet de théâtre, je suis sur la lecture de deux pièces là pour l'instant. Donc je vais voir un peu laquelle va naître en premier. Et puis j'ai plusieurs téléfilms que j'ai tournés là ces derniers mois qui vont sortir bientôt.
Il s'appelle
L'ombre de ton ombre, et il y en a un autre qui va sortir dont j'ai oublié instantanément le nom. Je suis comme ça depuis toujours, hein, toute petite, c'est pas nouveau.
Je comprends pourquoi elle a ses textes n'importe où avec elle, tout le temps, permanence. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous tous les deux. Bon, Mancini,
merci.
On
merci,
écoute
on
quoi
écoute la télé, on va écouter Vive Vrai, parce que what else, quoi.
Allez, on écoute.
Vrai, non pas survivre, c'est le temps ses propres hauteurs jusqu'à devenir ivre. Vivre à perdre haleine, vivre vite, se donner vraiment, flirter avec ses limites, se dépasser à pas de géant. Aspiré par le bruit, ma silhouette se frotte au hasard. Elle marche dans la nuit, les trottoirs mouillés lui servent de miroir. Le reflet est brouillé, les passants errants et s'enchaînent. Toutes les lumières m'attirent, j'avance sans but, mais j'avance en chaîne. J'ai faim de tout, je veux le bon disque qu'il y a dedans. Je veux vivre vrai, cocher mes cases, ne laisser qu'un trou béant. J'aime tout ce qui m'aspire en vrai. J'aspire à ce que tu m'aimes de près, moi et mes méandres. Mais vivre le ventre amer, vivre sans attendre, sans pensée limitante, juste vivre vrai. Les
laissez le passé au passé. Laissez le passé au passé, devenir celui dont tu rêves. Cessez de se laisser dépasser, oser aller marcher sur des braises. Tu vois loin et tu vois fort, mais on te murmure de rester tranquille. Il paraît que tu vois à tort, mieux vaut continuer d'être un garçon facile. Tout le monde veut que tu arrives, mais rarement t'y arriver avant eux. Alors tu tentes timide et tu sens qu'il va falloir faire mieux. Puiser en toi des ressources méconnues. Vivre le vent de face, mais vivre le ventre à nu. Vivre sans attente, sans pensée limitante, juste vivre. Vivre pleinement hors des carcans, des discours bien séants tracés à la craie. Que tes larmes effaceront lorsque ton chemin ne sera pas le bon. Mais l'histoire se répète pour ceux qui ne la comprennent pas au fond.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Ici Tout Commence. Ça continue tout l'été, il n'y a pas d'arrêt pour la série. Et on est très heureux de recevoir le personnage de Marc Leroy, Stéphane Blancafort, qui nous rejoint. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors mon cher Stéphane, effectivement, tout l'été, ça continue, ça ne s'arrête jamais. Et heureusement que ça tourne un petit peu quand même au niveau des personnages. Ça t'a laissé le temps de faire plein de choses cette année. Et tu vas nous raconter évidemment tout ça. Mais il est vrai que Marc Leroy, voilà, il est un petit peu plus saupoudré en ce moment, ce personnage.
Ouais, tout à fait. En ce moment, du coup, là, je suis sur une arche assez intense. On a commencé il y a que deux semaines maintenant, et on finit dans deux semaines. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'auparavant, j'étais
Diffusion mois d'août.
Et avant, j'étais un petit peu dans plein de petites histoires comme ça. Mais comme tu dis, effectivement, saupoudré un peu à droite à gauche. Mais c'est vrai, on nous donne un peu de répit pour après balancer le plus lourd, quoi. C'est bien, c'est un bon équilibre, je trouve. Mais il y a pas de répit pour les braves.
Et puis vous allez voir qu'effectivement, s'il y a un petit peu de répit pour Marc Leroy, il n'y en a pas eu beaucoup pour Stéphane Blancafort cette saison, et on va en parler. En tout cas, c'est vrai qu'Ici Tout Commence, c'est un carton absolu. C'est vrai qu'à la sortie de Tandem, c'était vraiment génial de pouvoir te faire rentrer dans un personnage comme celui de Marc Leroy sur la continuité. Je sais que tu avais un petit peu peur au premier abord de te lancer dans une quotidienne aujourd'hui. Quel bilan tu en fais?
J'appréhendais surtout ce rythme de travail qui est un peu fou, hein, faut bien se l'avouer. Sortie de Tandem, j'avais envie que ce soit un peu plus léger. Si toutefois il y avait eu un projet à la suite, il y en a eu un, j'ai eu de la chance. Je souhaitais que ça soit plus léger, que ce soit pas sur deux équipes, qu'on jongle pas sur deux plateaux avec quatre épisodes cross-bordés à chaque fois sur Tandem. C'est quand même un peu compliqué de s'y retrouver intellectuellement. Et à un moment donné, t'as vraiment besoin de repos. Donc du coup, on a bien dialogué avec la productrice, Sarah Faramand, au tout début, qui voulait que je vienne sur le projet d'ITC. Et quand j'ai su que c'était une quotidienne, j'ai commencé un petit peu par refuser, justement par rapport à ce rythme de travail. Et puis en fin de compte, on s'est mis d'accord. Elle et moi, sur un rythme plus soutenu, plus à la carte, on va dire, quoi, gentiment. Mais c'est cool, c'était un bon deal en fait. Et puis ça continue maintenant, ce qui me permet d'apprécier véritablement l'endroit et le travail que je fais sur Ici Tout Commence, qui est quand même une sacrée belle machine, quoi. J'aurais vraiment eu tort de dire non.
Et alors le mois d'août, ça va être Marc Leroy à fond.
Oui, parce qu'il propose un module de masterclass qui est quand même assez intéressant, avec un petit pool d'élèves tous aussi atypiques les uns que les autres, donc c'est plutôt cool. Et ça se passe très très bien sur le tournage par rapport à ça. On prépare vraiment une masterclass qui va être intéressante, riche, ouais, très riche.
On va suivre ça, bien évidemment. Et puis, les petits nouveaux vont arriver. Et évidemment aussi, parce qu'il va y avoir la rentrée fin août avec sa nouvelle promotion. Et tu parlais des élèves, justement, des petits nouveaux. Bah, il va y en avoir là, qui vont arriver.
Alors, ouais, je crois, j'ai cru entendre qu'il y en avait 7 ou 9 nouveaux, 7 peut-être quand même, parce que 9, ça me paraît beaucoup. Et non, pour tout vous dire, j'en ai vu aucun pour l'instant. Parce que justement, l'arche que je tourne en ce moment est délocalisée. Donc, je suis pas du tout dans le château. Donc, je ne sais pas du tout ce qui se passe au
ça
château.
Ça fait du bien, ça?
Oui, ça fait du bien. Ouais, c'est bien. Même si on a un très beau décor au quotidien, hein, le parc, la serre, le potager, la wave, tout ça, enfin les gens connaissent. Même en intérieur, c'est très beau. On se lasse pas en fait, hein, parce qu'on a un décor qui est riche et varié. Mais le fait de sortir, ouais, ça invite au voyage un petit peu, même si on va pas très loin, parce que là on tourne à Castelnau. Ouais, ça fait du bien, c'est une bulle d'air. Ouais, on y va avec grand plaisir. Ouais.
Alors, il y a aussi D'écumer de sang, ça sera une série événement réalisée par notre ami Julien Seri, justement, qui sera diffusée la saison prochaine sur France Télévisions, si je ne m'abuse. Et là aussi, ça va être un des événements hein, qui nous attend et dans lesquels tu partages la vedette avec un cast de dingue.
Oui, Elisa Erka en rôle principal, tout tourne autour de son personnage qui a plus que des déboires.
On avait vu dans Avignon l'année dernière, ouais. Un film que je vous conseille en DVD VOD, Avignon, de Johan Yonet, qui est incroyable. Ouais. Et Elisa, elle y est hyper émouvante dedans. Elle est incroyable. Très belle comédie romantique pour l'été. Idéal.
Kaplan, ouais. Qui est formidable. Mais il faut que je le voie, ce film, absolument. Il faut qu'on le regarde. Charlotte de Turckheim, qui est ma partenaire principale dans ce 6x52 réalisé par Julien Seri. Voilà un 6x52 d'action. Une belle série qui est très prometteuse. D'après ce que j'ai déjà un peu vu. Et voilà, j'y joue un gendarme un petit peu impliqué quand même. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais c'était une très belle aventure. Et puis de travailler avec Julien Seri, c'était la première fois pour moi. Et c'est une très belle rencontre. Et c'est un réalisateur qui donne envie de continuer de travailler pour lui, avec lui.
Tu sais que son surnom, c'est Tac Tac?
Et non, je savais pas, non. Pourquoi? Non, tu le connais.
Sur Tropique Criminel, son surnom, c'est Tac Tac, parce que tu as remarqué que tu avais jamais d'heures supplémentaires avec Julien Seri.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Il est d'une efficacité redoutable. Oui. Et il a un œil tellement affûté. Ouais. C'est franchement, il fait un travail de réalisation assez dingue.
C'est un sportif, donc voilà, ça fonctionne comme ça. On sait. Le vendredi à 17h, t'as fini, quoi.
Tu peux nous dire quelques mots sur ton personnage justement dans cette série?
Je suis commandant de gendarmerie. C'est compliqué à dire en fait. Je crois que je suis un petit peu impliqué dans l'histoire d'arrestation du personnage principal, donc qui est joué par Elisa Erka, superbement interprété d'ailleurs, et très très compliqué comme personnage, qui a été condamné un peu à tort. Et je fais partie des gens qui l'ont un peu mise au pilori, quoi. Donc voilà, sachant que toute cette affaire est un peu trouble, j'ai pas les mains très propres.
On va découvrir ça, D'écumer de sang, ça sera la saison prochaine. C'est une série qui est bouclée, ou est-ce qu'on peut imaginer justement une suite ou une saison 2, ou est-ce que c'est vraiment conçu comme une mini-série, toi, telle que tu l'as vécu au tournage?
Une mini-série, je pense que c'est bouclé. Vraiment, il y a un début, une fin. Ça a été très chiadé. Je pense vraiment le scénario est très très fort, très très fort.
T'as d'autres projets? Est-ce que ça t'a laissé le temps justement ici, tu commences de prendre un peu l'air ailleurs et de faire d'autres choses aussi?
Ouais, c'est l'an dernier qui a été assez riche à ce niveau-là, quoi. Mais il y a eu le film avec Mathilde Seigné aussi, réalisé par Didier Le Pêcheur, au cœur de nos terres.
Vous pouvez voir toujours sur France.tv d'ailleurs.
Et qui promet, je pense, une suite éventuelle, ouais. Avec Justine Lacroix.
Film sur le monde rural, généralement, si on n'a pas Justine Lacroix, ça va pas. Et on l'adore, Justine, justement, super comédienne aussi.
Ouais, elle est venue nous faire un petit coucou sur Ici tout commence, justement. Voilà, et puis peut-être là un petit passage d'un tout petit guest sur Alter Ego avec Eric Cantona, éventuellement, à voir.
Une saison 2 en vue, donc, pour la série de TF1.
Ça a eu l'air de fonctionner, donc il y a une suite, visiblement, ouais. Ouais.
Bon, écoute, on a hâte de savoir ça. Non, écoute, tu nous as donné un petit scoop comme ça en plein été, ça fait toujours plaisir parce qu'on a adoré cette série, Bruno et Eric. Ouais. Et on va avoir plaisir en tout cas à la retrouver la saison prochaine sur TF1. Ça c'est sûr. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet été?
De rester en vie.
Ça serait pas mal.
Ça serait déjà bien, c'est une bonne base. Le reste, je l'ai.
Très belle fin. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Et on te dit à très très vite pour de nouvelles aventures et qu'on va suivre évidemment tout l'été. Vous l'avez compris, le mois d'août va être chargé pour Marc Leroy. Et c'est tous les soirs évidemment du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1 et maintenant sur Netflix aussi. Merci beaucoup.
Merci infiniment, j'embrasse tout le monde.
J'ai eu mon année. Ça y est, l'échange il est fini.
Du coup, tu retournes à Bordeaux?
Viens, je reste ici, non?
Et tu peux pas demander à Duchesnet qui s'en occupe?
Pour que je me fasse pistonner?
Ouais.
Jamais d'avis.
Tu veux négocier directement avec le grand sultan Tessie là?
suis au courant pour l'IVG.
Je m'en veux vraiment de pas te l'avoir dit.
J'ai l'impression que tu m'as pris pour un con en fait et ça me reste là, tu comprends?
Et j'essaie de la convaincre de venir t'en parler avant.
T'en veux depuis quand t'es au courant toi? Pourquoi tu m'as mis à l'écart?
J'avais trop peur.
T'avais peur de moi, c'est ça? Si t'es pas capable d'avoir confiance en moi, on n'a plus rien à faire ensemble.
Allez, ne bougez pas, dans quelques instants, c'est une rencontre exceptionnelle avec Lydie Denier, la comédienne française la plus connue aux États-Unis qui débarque dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
J'ai vu un carton posé là, un peu à plat sur le bitume. Quelqu'un m'a dit que c'était un matelas qu'on leur tire sur le nocturne. J'ai vu des hommes qui se battaient et puis d'autres qui se taisaient. Moi, je sais plus faire la différence entre la guerre et le silence. J'ai vu des immeubles qui poussaient et des arbres qui tombaient et puis des vieux qui me disaient que ça devient dur en été. J'ai vu des regards vides devant des tentes déchirées et puis des oiseaux ivres face au calme des cyprès. Et j'ai vu ta gueule d'ange qui me disait: papa, on fait comment on fait, comme si de rien. Regarde les yeux de maman, ce sont des pinceaux à rendre la vie bien plus belle. Allez, prends donc deux trois couleurs et viens, on fait une aquarelle. Y'a un soleil qui est un peu gris, viens, on lui redonne son jaune d'antan. Ce n'est pas des bombes là, regarde, ce sont des cerfs-volants. Car du bout de ta mine, tu peux tout refaire. Rembobiner le film, rallumer la lumière. Speranza, Speranza, toi tu te lèveras au milieu de ces fous. C'est pas une poésie que d'y croire jusqu'au bout. Speranza, Speranza, toi tu te lèveras et puis même à genoux, on peut crier l'espoir, une larme sur la joue. J'ai vu trop de femmes dans une justice retardataire qui ont dit qu'un murmure c'est déjà bien mieux que se taire. J'ai vu des phrases tordues ponctuées de faux rires et puis des lèvres mordues pour éviter de tout dire. Et j'ai vu trop de crabes qui se logent dans des seins et dans les corps des nôtres pour un raccourcir le destin. J'ai vu trop de drames, mais je les cache à tes grands yeux. Si tu vois que tout crame, qui croira au merveilleux? Toi tu prendras le moche que trop souvent on souligne et t'en feras une peinture qui fera honneur au sublime, au beau, au rare, au simple, à la bravoure, aux faiblesses, aux dignes, à l'amour. Y'a un soleil qui est un peu gris, viens, on lui redonne ce pas jaune d'antan. C'est pas des bombes là, regarde, ce sont des cerfs-volants. Car du bout de ta mine, tu peux tout refaire. Rembobiner le film, rallumer la lumière. Speranza, Speranza, toi tu te laveras au milieu de ces fous. C'est pas une poésie que d'y croire jusqu'au bout. Speranza, Speranza, toi tu te lèveras et puis même à genoux, on peut crier l'espoir, une larme sur la joue.
Et si mes yeux de grand ne voient que feu et sang, de ton regard donc tu vas tout m'apprendre. Je ne suis qu'un père, je ne suis qu'un fou. Au final c'est toi qui m'apprendras tout. Et si mes yeux de grand ne voient que feu et sang, de ton regard donc tu vas tout m'apprendre.
L'amour, le courage, tout ça, tu me diras.
Papa Spencer.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, aujourd'hui, on va avoir la chance de recevoir l'actrice française la plus connue aux États-Unis qui a fait quasiment toute sa carrière là-bas. Elle nous fait l'amitié d'être en France. C'est une Bretonne d'origine et on est très heureux de l'accueillir. C'est Lydie Denier. Peut-être vous l'avez vu dans Tarzan, Alerte à Malibu, Melrose Place et de nombreux films. 88 séries à son actif. C'est une légende qu'on a carrément aujourd'hui. Bonjour Lydie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Elle est accompagnée par Patrick Loubatière. Patrick qui a écrit un très beau livre avec Lydie, justement, 400 photos, revenir sur toute sa carrière. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Lydie, j'ai envie de revenir effectivement sur cette carrière de folie. Tout a basculé en 1985, quand Lydie, tu décides de tout plaquer et de partir aux États-Unis grâce à un coup de cœur aussi. Des fois, l'amour fait faire des choses folles. Et là, ça a été le cas. Et ça a été le début d'une magnifique histoire.
Ben, c'était une magnifique histoire. Et c'est vrai que bon, c'était un coup de cœur que j'ai eu. Bon, ça a duré 3 semaines, mais mon billet d'avion était valable pour un an. Et dans cette année-là, toute ma vie a basculé parce que j'ai commencé à travailler. Donc, même si je parlais pas anglais, je faisais beaucoup de pubs
pour la télévision et des grosses pubs. Hein. J'ai fait American Express, j'ai fait pour la Saint-Valentin, pour les fleurs, j'ai fait Dole Pineapple Sauce. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses jusqu'au jour où il y a eu un acteur, donc par le nom de Gary Busey, donc qui a fait L'Arme Fatale avec Mel Gibson, qui m'a vu dans une pub. Il a appelé le metteur en scène, il dit « Je la veux, elle, pour jouer le rôle de ma petite amie ». Donc, ils ont fait des recherches, qui était mon agent. Et l'agent leur a dit, oui, mais c'est bien, mais elle parle pas anglais. Il a dit, on s'en fout, on va prendre un coach. Voilà. Mais éventuellement, j'ai été mise sous contrat par ABC, qui était une, donc, c'est un peu, c'est le TF1, donc.
C'est l'équivalent de TF1 chez nous.
Oui. Et, pendant un an, ils m'ont payé, bon, il y avait des cours d'acting, de chansons, de danse, parce que, aux États-Unis, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut savoir tout faire. Parce que si on auditionne pour un rôle, qu'on ne sait pas faire quelque chose, ça passera à l'autre. Donc, il faut vraiment...
polyvalent.
Il faut être très polyvalent. Mais moi, en même temps, ils m'ont payé des cours d'anglais. Donc, j'avais 2 heures, 5 jours par semaine de cours avec un prof. Et bon, c'est vrai, c'est un petit peu frustrant parce que je me suis dit, mais quand est-ce que je vais être bilingue? Et il me dit, le jour où tu rêves en anglais, tu as la langue. Et ça m'a mis 6 mois. Et je l'ai revu, je dis, oh, j'ai rêvé en anglais, j'ai rêvé en anglais, j'étais toute contente, j'ai, oh, oh, oh. Ouais. Donc c'était rapide. Hein.
Et puis l'accent est arrivé, alors c'est vrai que t'as quitté ta Bretagne, t'es originaire d'où en Bretagne? Parce que t'as toute ta famille encore en Bretagne.
J'ai toute ma famille en Bretagne, mais moi je suis née donc en Loire-Atlantique, je suis née à Saint-Nazaire.
Quel beau coin.
Très très beau coin. J'ai passé mon enfance à La Baule, qui est très beau coin aussi, mais j'ai toute ma famille encore, hein, sur La Baule, sur la Turballe, sur Missillac, sur, oui. Tout le monde, je suis la seule qui est partie très loin.
88 séries, on a tous été bercés par les séries dans lesquelles tu as tourné, que ce soit Melrose Place, General Hospital, Agence Acapulco, on pourrait parler d'Alerte à Malibu, ou encore bien sûr de celle qui a un peu tout changé, c'est Tarzan, évidemment. Un tournage qui restera longtemps, je crois, dans ta mémoire, ça a duré 3 ans, mais c'était fou.
Ouais, dans 75 épisodes, et puis en plus, bon, ben, je suis la première Jane française. Le premier Tarzan français, c'était bien sûr Christophe Lambert, que je l'ai rencontré quand il habitait à Los Angeles. Mais je suis la première Jane française, je suis la première Jane en télévision. Il n'y en a pas une autre qui a fait une série télévisée. Il n'y avait pas de Jane. Dans la série dans les années 60 avec Ron Ely, il n'y avait pas de Jane. Et puis je suis celle qui a le plus été à l'écran. Parce que j'ai quand même 75 épisodes.
T'as tourné avec des animaux, chose qui ne serait plus possible aujourd'hui. Ça serait certainement rajouté avec des effets spéciaux, etc. T'as eu cette chance, toi, de pouvoir effectivement approcher les animaux plus près. Est-ce que ça t'a impressionné par moment?
Alors moi, oui, c'est impressionnant. Donc moi et puis l'acteur principal qui jouait le rôle de Tarzan, donc Wolf, on est arrivé 10 jours avant de commencer le tournage parce qu'il fallait quand même qu'on fasse comme si on était à l'entour des animaux depuis toujours. Donc il y avait une grande cage et il y avait le chimpanzé à l'intérieur, moi, dans la cage avec le chimpanzé. Et puis échanger, donner une banane, qu'il apprenne à nous connaître. Et c'est vrai, le chimpanzé m'aimait beaucoup, il m'embrassait tout le temps. C'était mignon, c'est très mignon, mais en même temps il faut se rappeler quand même, il peut être dangereux.
On a toujours gardé ça en tête, même quand on est comédien et qu'on tourne avec eux.
Absolument, et tout le monde leur disait, parce que alors c'était un chimpanzé mâle, et moi ce qui me faisait rire, c'est quand je faisais le doublage en France, donc Cheetah et femelle, et moi je voyais son petit truc voilà à l'écran. Et pendant le doublage, c'était Gérard de Salles d'ailleurs, qui est un doubleur fantastique, qui était donc mon metteur en scène pour le doublage. Il faisait la voix de Tarzan. Et je rigolais, je dis, je peux pas dire elle. C'est impossible. On voit son petit truc. Donc, pour la deuxième année, ils nous ont demandé, donc, le pauvre singe, il avait le pauvre chimpanzé, ils lui ont mis un petit truc noir pour pas que ça se voit à l'écran. Et il dit, non, Cheetah est femelle. Une femelle chimpanzé n'est pas domptable. Donc on utilise chimpanzé mâle. Mais tous les acteurs qui venaient en tant que guest, tout le monde était prévenu, si le chimpanzé est dans mes bras, surtout ne m'approchez pas, parce que le chimpanzé était jaloux. Donc il pouvait aller au visage de quelqu'un, ouais, pour me défendre.
Oui, il y a des choses et des techniques à savoir dans ce genre de tournage et de situation. Patrick, donc il y a ce livre, hein, c'est La Bretonne d'Hollywood et dans la jungle de Tarzan, avec un préface d'Hunter Tilo. Lydie, comment tu t'y es pris pour la convaincre? Effectivement, tu as été le premier à pouvoir connaître quasiment toute sa vie et nous reproduire ça avec plus de 400 photos illustrées et reprendre toute sa carrière.
Écoutez, d'abord, moi, j'ai jugé que effectivement sa carrière méritait un livre parce qu'elle est absolument exceptionnelle. Il n'y a aucun acteur ou aucune actrice française qui a réussi à faire une carrière sur le long terme aux États-Unis. Certains y sont allés 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ils sont vite revenus. Elle non, ce qui prouve une force de caractère, énormément de qualité derrière tout cela. Donc j'ai jugé que ça méritait un livre, et donc je l'ai contactée. Et puis assez rapidement, une relation de confiance est née entre nous. On s'est rencontrés pour la première fois le 2 janvier, donc il n'y a pas très longtemps finalement, quand elle est venue en France. Et donc là, ben voilà, on est quelques mois après, le livre est sorti et on en est heureux. Ça a été un plaisir de collaborer ensemble sur ce projet parce que Lydie est quelqu'un d'adorable, extrêmement sympathique et qui a participé, qui a donné son cœur vraiment sur ce projet, quoi. Elle n'était pas avare de son temps pour faire que ce livre soit une réussite et qu'il fasse plaisir aux gens.
On va expliquer dans quelques instants évidemment comment se procurer ce livre, parce que franchement il est d'une passionnant, mais en plus il y a des images qui sont absolument magnifiques et qui vont rappeler plein de souvenirs à plein de monde. Moi Lydie, je me pose quand même la question, comment ça se fait aujourd'hui qu'on t'a jamais vu dans une série un peu événement pour TF1, pour France Télévisions, pour M6? Est-ce que c'est une volonté de ta part, ou au contraire tu rêverais de tourner en France dans une grande série?
Ah non, mais je rêve de ça. Je n'ai jamais dit non. Je voulais le faire. D'ailleurs, avec Monsieur Castaldi hier soir, il me dit, il te faut un agent. J'ai dit oui, et je fais comment pour en trouver un? Il me dit, je m'en occupe. Donc, et tout le monde me dit, tu devrais faire quelque chose ici. Film, théâtre, série. Je suis pas contre du tout, hein.
C'est extraordinaire qu'il n'y ait pas un producteur qui ait pensé, mais à faire ce gros coup de pouvoir t'avoir aujourd'hui dans une série, Patrick.
Mais moi, j'ai la réponse. Hein. Je veux dire, les gens ont très peu d'imagination. Hein. Ça veut dire que s'ils n'ont pas, non, mais ça paraît idiot, mais s'ils n'ont pas un agent connu qui vient leur parler de Lydie, ils vont pas s'en rendre compte eux-mêmes, quoi. Lydie a un parcours fabuleux. Bien évidemment, elle a sa place dans un film, une série ou une téléfilm française. Mais malheureusement, personne n'a eu l'idée, personne n'est allé plus loin que le bout de leur nez.
Est-ce que t'as pas l'impression aussi, Lydie, peut-être qu'il y a aussi ce côté un peu inaccessible de la carrière américaine, et qu'on se dit, oh, bah, de toute façon, elle est pas accessible, ça sera pas possible, ou jamais elle acceptera un truc pareil?
Oui, je pense qu'il y a, certaines bandes, on me dit, ah, Hollywood. Et j'ai dit non, mais moi je suis pas Hollywood du tout, je suis quelqu'un de très simple, j'ai une vie que je protège, ça c'est sûr, je protège ma famille, je protège les gens que j'aime, je les garde vraiment en dehors de ma vie de comédienne. On sait pas vraiment avec qui je suis pas, où je vis pas, mais je suis quelqu'un de on peut m'approcher, je ne mords pas.
Et surtout, faites tourner Lydie en France. C'est pas possible qu'aujourd'hui on est l'actrice américaine française la plus connue d'Hollywood et que chez nous t'es pas tournée. Donc il faut vraiment réparer ça très vite. Patrick, tu t'en occupes aussi?
Ah, moi je suis pas agent, hein. Moi j'ai écrit.
Non, mais rien qu'avec ça, je pense que déjà ça va peut-être éveiller quelques petites choses quand même avec ce livre.
Et puis c'est surtout un livre aussi qui permet aux gens d'en connaître beaucoup plus sur le milieu du cinéma, sur le comment finalement réussir à faire sa place, même dans des circonstances très difficiles, puisqu'elle ne parlait pas la langue au début, hein, voilà. Donc voilà, les gens qui aiment qui s'intéressent au milieu du cinéma et de la télévision vont vraiment découvrir de l'intérieur comment ça se passe, parce qu'il y a une très 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 longue interview de Lydie à l'intérieur, et on rentre dans, voilà, tout ça est exposé avec précision.
Forever Collection, c'est ça? Pour le commander, voilà. Pour se le procurer, comment on fait?
Oui, Forever Collection sur internet, forevercollection.bigcartel.com. c'est une collection en auto-édition.
On a la chance de t'avoir, Lydie, vas-y.
Et je pense que maintenant, même s'ils écrivent mon nom, Lydie Denier, la Bretonne d'Hollywood, livre, ça va arriver, parce que moi j'ai essayé de Google, je Google myself, je me Google moi-même, et j'ai vu que, on en a parlé même à Monaco aussi, donc ce qui fait que ça va être très facile de le trouver.
Le livre de votre été, je vous dis, si vous voulez en savoir beaucoup plus, en tout cas sur Lydie, dernière question que j'ai envie de te poser, parce qu'on a la chance de t'avoir là, comment ça se passe un tournage aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des grosses différences par rapport à la France, et est-ce qu'on a pu te dire peut-être, est-ce que des acteurs français ont pu te raconter?
Alors, je pense que les horaires de tournage sont moins en France. Ils ont plus de temps pour déjeuner.
Très cadré, très structuré.
Très cadré, très structuré. Moi, je me souviens que c'était dans Agence Acapulco, et le metteur en scène me dit « Darling, demain, tu as le day off. » Et j'ai fait « Wouhou !» Et en plus, il y avait ma mère, ma sœur et mon neveu qui avait 2 ans et demi qui était avec moi pendant 5 semaines. Donc, j'étais super contente. Et puis, ça frappe à la porte, ma sœur ouvre, et c'était le deuxième assistant metteur en scène, et qui dit à ma sœur, j'ai besoin de Lydie, là, maintenant, tout de suite, en bas, parce que il pleuvait, donc ils ont changé les scènes à la dernière minute. Et puis, donc, ma sœur vient me chercher dans la chambre, et j'arrive, je vois Bruno, et puis il a dit, café. Donc, elle m'a apporté mon café, il me dit, on a besoin de toi dans 30 minutes. Donc, ouais, on prend la douche, on prend ceci. Donc, mais c'est aussi, c'est une habitude. Hein. On sait toujours que on est préparé. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on est toujours préparé.
Une capacité d'adaptation folle.
Oui, oui.
C'est le mot qui ressortira.
Ce qui fait que peut-être, et j'espère faire quelque chose en France, je vais me dire, oh, qu'est-ce que c'est relax, je vais rester. Hein.
Exactement, vous l'avez compris en tout cas, si vous avez envie de contacter Lydie Denier, n'hésitez pas en tout cas, et nous ça serait grand plaisir qu'on pourrait la voir sur nos écrans français. Donc voilà, et un petit peu d'imagination, chers producteurs, chers réalisateurs, on va essayer d'en parler autour de nous aussi, il y a beaucoup de monde qu'on connaît, et on espère te revoir très vite ici en France. Merci beaucoup Lydie pour ce moment. Merci Patrick également. Le livre de votre été, ça s'appelle Lydie Denier, la Bretonne d'Hollywood et dans la jungle de Tarzan. Vous tapez ça sur Google, comme tu l'as dit si bien, en Google Ease, et vous allez pouvoir retrouver le lien pour le commander. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à bientôt.
À bientôt.
Merci Patrick.
Merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, nous aurons 2 équipes de films pour terminer cette saison en beauté de la comédie française. Bertrand Huskla, Martin Darondeau, Julien Frison ou encore Pauline Clément de la comédie française seront avec nous pour en parler. Puis Tomber du ciel également, la comédie de Mohamed Hamidi qui sortira le 12 août au cinéma. Il sera avec nous avec Ilyes Jadel notamment. Et puis plein d'autres surprises qui vous attendent.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.